Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Le gouvernement a convenu avec les entreprises d'une initiative pour lutter contre l'inflation. Lors de la conférence de la CEPAL, le président Alberto Fernández a dénoncé les inégalités en Amérique latine. L'Argentine et l'Union européenne ont renforcé leurs relations bilatérales. Pour le magazine Nature, le président brésilien Jair Bolsonaro est une menace pour la science. Football, Boca, champion de la Ligue de football professionnel. Sept entreprises de biens de consommation ont accepté d'imprimer les prix sur les emballages. Le ministre de l'Économie, Sergio Massa, a indiqué qu'un accord avait été conclu avec les fabricants pour mettre en œuvre cette mesure qui vise à contrer l'inflation qui a déjà dépassé 60% les 9 premiers mois de 2022. L'accord, a précisé Massa, sera en vigueur entre le 15 novembre et le 15 mars et porte sur les produits alimentaires, les produits d'hygiène personnelle et les produits d'entretien ménager. Dans une interview, le ministre a souligné les efforts des secteurs industriels pour essayer ensemble de faire baisser l'inflation, qui est ce qui fait le plus mal aux poches des gens. Pour le président argentin Alberto Fernández, le fossé entre riches et pauvres en Amérique latine est le plus profond de la planète. Et cette inégalité, a-t-il expliqué, est une conséquence directe de ceux qui veulent un État absent et parce que les richesses sont accumulées dans des paradis fiscaux et ne profitent jamais à ceux qui en ont le plus besoin. Fernández a fait cette déclaration à Buenos Aires lors de l'ouverture de la 39e session de la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie, a également pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture. Pour l'Américain, il est devenu très clair que ces dernières années, les frontières ont de l'importance, alors que l'on tente depuis des décennies de globaliser le monde. Plus de 600 représentants des gouvernements, des Nations Unies, des organisations intergouvernementales, des universitaires et de la société civile ont participé à la réunion de la CEPALC à Buenos Aires. L'Argentine et l'Union européenne ont relancé leurs relations bilatérales et leur engagement à coopérer dans les domaines de la science et de la protection de l'environnement. En outre, ils se sont à nouveau accordés sur l'appel à la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce point a été exprimé lors d'une rencontre entre le président Alberto Fernández et le responsable des relations extérieures du bloc continental, l'espagnol Josep Borrell. Fernández et Borrell ont passé en revue l'agenda bilatéral et des questions telles que l'égalité des sexes, les droits de l'homme, l'éducation, la culture, la numérisation et la biotechnologie. Pour le magazine britannique Nature, le président brésilien Jair Bolsonaro représente une menace pour la science, les peuples indigènes et le développement de son propre peuple. Dans un éditorial, le journal affirme que Bolsonaro a été fidèle à sa parole. Son mandat a été désastreux pour la science, l'environnement et le peuple brésilien. L'article compare le président à ce qu'il appelle son ex-collègue populiste aux États-Unis, Donald Trump. Tous deux, selon Nature, s'accordent pour nier les avertissements des scientifiques concernant le coronavirus ainsi que les dangers de la maladie. La publication met en lumière certaines des politiques de l'ancien président Lula da Silva, le rival de Bolsonaro, au second tour du scrutin de dimanche. Pendant son mandat entre 2003 et 2011, note l'article, le Brésil a rompu le lien entre la déforestation et la production de matières premières comme le bœuf et le soja. Mais une grande partie de ces progrès a déjà été démantelée par Bolsonaro, conclut le rapport. Sport. Boca Juniors est le nouveau champion du football argentin après un match nul 2-2 à domicile contre Independiente. Le Racing Club de Avellaneda avait la gloire au bout des doigts, mais il s'est incliné 2-1 contre River à domicile. Emilien Buffard, traducteur et photographe français installé en Argentine, dans la ville de Rosario, 300 km au nord de Buenos Aires, que nous avons interviewé en avril dernier, nous communique une de ses nouvelles productions artistiques. Il réinterprète et présente le traditionnel album Panini, intégrant plus de 500 joueurs photographiés, 18 associations sportives LGBTQI+, de toute l'Argentine, et des interviews de professionnels du sport qui ont pour ambition de rendre visible et de promouvoir un monde sportif plus inclusif. Écoutons-le.
À travers ma nouvelle production photographique Sport Friendly, le terrain de la diversité, j'ai décidé de réinterpréter le traditionnel album de figurines Panini pour le rendre plus inclusif. Donc j'ai photographié 18 associations sportives LGBT de toute l'Argentine qui cherchent à redéfinir les valeurs classiques du sport en défendant que, indépendamment de son orientation, de son identité sexuelle, de son genre, de sa condition physique ou sociale, chaque personne a sa place sur les terrains. L'idée de reprendre ce concept de l'album de figurines Panini, je dis toujours que l'art, c'est du recyclage. Et finalement, c'est un livre, c'est un album que la grande majorité des adultes ont collectionné dans leur enfance et qu'aujourd'hui, la grande majorité des enfants collectionnent dans le cadre du mondial, d'ailleurs les adultes aussi. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir dire, voilà, reprendre un concept qui fait partie du monde sportif actuel, qui aujourd'hui véhicule des normes hétérosexistes et sexistes. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ne trouvent pas leur place sur les terrains, sont victimes de discrimination, d'homophobie ou de transphobie ou de sexisme. Et donc l'idée, c'est de reprendre cet outil-là et de l'éloigner finalement de ces normes-là pour le rendre plus accessible et plus inclusif. Dans cet album, on trouve plus de 500 photographies organisées à la manière de figurines Panini, avec des informations sur chaque équipe, mais également des photographies plus spécifiques de certains joueurs avec leurs témoignages, qui nous partagent leurs mots et leurs revendications sur les terrains. Et également des interviews avec trois joueurs professionnels ouvertement LGBT. Il s'agit de Cecilia Carranza Saroli, la première femme en Argentine à avoir gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques en voile. Jessica Michaman, la première femme transgenre à avoir intégré une équipe féminine de hockey en Argentine. Et Facundo Imhoff, de la sélection nationale de volley argentine, qui nous partagent leur expérience quant à l'inclusion et la diversité au niveau du sport professionnel. Et donc l'objectif de cette publication, de ce livre qui prend la forme d'un album Panini de la diversité, c'est finalement d'inviter le spectateur à réfléchir autour de cette grande question de quel monde du sport souhaitons-nous avoir demain? Et à travers cette grande question, finalement, l'idée, c'est d'ouvrir un espace de dialogue autour, par exemple, de la place des personnes transgenres dans le sport, autour de la diversité des corps également, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les institutions sportives ont une grande influence sur la culture physique moderne et la légitimité de certains corps à entrer sur les terrains par rapport à d'autres, notamment par rapport aux personnes en situation de surpoids. Et également autour de la sexualité, par exemple, on pense encore aujourd'hui, beaucoup pensent encore aujourd'hui que la sexualité peut être un facteur limitant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne trouve aucun, voire très peu de joueurs qui s'affirment gay ou lesbienne au niveau professionnel. Donc l'idée de cet album Panini de la diversité, c'est de pouvoir aborder toutes ces questions-là et que ce soit finalement comme un point de départ pour pouvoir réfléchir autour de ces questions-là. Et l'idée de le présenter ce mois-ci en novembre, c'est également pour faire un pied de nez au Mondial de football qui se déroule au Qatar cette année, hein, dans un pays, une Coupe du Monde plutôt polémique pour la communauté LGBT, puisque le Qatar a demandé explicitement à la communauté, aux personnes LGBT, d'être discrètes. Les personnes du même sexe, par exemple, n'ont pas la possibilité de louer, de réserver une chambre d'hôtel pour pouvoir assister au mondial, et les personnes LGBT du Qatar sont passibles de peine d'emprisonnement. Donc l'idée, c'était de dire que voilà, aussi ici en Argentine, nous on défend les jeux de la diversité, et donc voilà, moi c'est un peu ma contribution à travers cet album Panini de la diversité, qui sera présenté au Centro Cultural San Martín à Buenos Aires le mercredi 2 novembre à 19h, avec l'exposition photographique qui sera également possible de visiter et qui compte 15 photographies et 15 témoignages. Et pour les personnes qui souhaiteraient se procurer cet album Panini de la diversité Sport Friendly, qui ne peuvent pas se rendre à la présentation du livre le mercredi 2 novembre à Buenos Aires, il est possible de pouvoir se le procurer à travers ma page web emilienbuffard.com dans l'espace boutique.
L'Argentine a commémoré cette semaine 45 ans de la fondation des grands-mères de la place de Mai, ces femmes courage qui cherchent les quelques 500 enfants volés ou nés en captivité pendant la nuit de la dictature de 1976 à 1983. 132 ont récupéré leur identité. La question des droits de l'homme est encore et toujours d'actualité en Argentine. Je me permets de partager une interview que m'a faite Jérôme Guillot, représentant des Français en Argentine, à la radio Signos FM 92.5.
Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bah, on se retrouve encore une fois pour cette émission si belle qu'elle est. Francophone, francophile, francesa. Ici, on parle espagnol, français, assez mélangé. Puisqu'on est, comme vous savez, un groupe d'amis qui on se relaie pour venir toutes les semaines. Donc, moi, par exemple, je suis catalane, je suis Angels. À côté de moi aujourd'hui, il y a Jérôme.
Je suis français.
Jérôme Guillon.
Et Normand. L'idée du livre Resiliencia, c'est une idée qui est née au Chili, qui est née à Santiago. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, d'ailleurs très intéressante, une des personnes, d'ailleurs avec qui on va parler tout à l'heure, qui a participé au projet, m'a dit au bout d'un certain nombre d'années, m'a dit bah, Jérôme, ce serait peut-être bien d'arrêter de chercher des témoins, parce qu'il y a 53 témoins tout de même dans le livre. Hein. C'est un livre assez volumineux. Alors, on a parlé du cas Fessed et du cas Bessone, et ça, c'est vraiment très bien, parce que pour la suite, notre deuxième invité, en fait, est totalement concerné par ce jugement.
Oui.
Et il s'appelle Eric Domergue, et là, il est en ligne avec nous. Et bonjour, Eric.
Bonjour, Eric.
Bonjour, comment allez-vous ?
Oh, ben, ça va. Même si le thème n'est pas joyeux, hein, mais
non,
je
mais
crois
faut
que...
Il faut en parler.
Exactement.
C'est très bien.
Exactement, il faut en parler. Alors, on voulait parler avec toi d'un thème dont qu'on va développer un petit peu après, mais tout d'abord, tu pourrais te présenter un petit peu à nos auditeurs.
Oui, bien entendu. Bon, vous parliez là de Yervestone quand il a été condamné en 2012. L'un des cas, c'était justement celui de mon frère Yves Domergue et de sa compagne Cristina Cielset. Tous eux enlevés en 1976 à Rosario, justement, dans la ville de Rosario où ils vivaient et ils militaient. Et 34 ans plus tard, on a pu retrouver leurs restes, leurs corps, à 120 kilomètres de là, enterrés dans un petit village. Donc bon, mon frère, un des Français victimes de la dictature, on est arrivé tout petit en Argentine en 1959, et lui à l'époque en 74, 75, 76, il a commencé à militer à l'université et en politique ensuite, et bon, c'était évidemment une époque très dangereuse, et il était enlevé en septembre 76. Voilà, en quelques mots, l'histoire de mon frère.
Et toi, tu t'es battu pour le retrouver, en fait, constamment, avec ton père, ta famille.
Oui, la famille, les ONG des droits de l'homme, il y a eu beaucoup de monde qui, depuis le début de la dictature et surtout à partir du retour en démocratie en 83, qui avons beaucoup travaillé pour essayer d'abord de connaître la vérité, tout au début pour savoir s'ils étaient encore vivants, et puis après, bon, pour entre autres retrouver un peu les traces, reconstruire l'histoire et retrouver surtout les restes de nos sœurs disparues, non ?
Alors,
c'est le cas de mon frère.
Voilà, alors justement, ils étaient à Melincué, un petit village de la, une petite ville maintenant peut-être de la province de Santa Fe, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils ont été retrouvés aussi, bon, grâce à l'effort des gens qui étaient sur place. Il faut le noter aussi, d'ailleurs, dans le livre, il y a quelques personnes qui témoignent de ça. Hein. Mais il y a aussi l'apport énorme de scientifiques argentins. Et justement, tu pourrais en parler toi maintenant.
Voilà, exactement. Pendant 34 ans, ma famille, on n'avait aucune nouvelle. On savait vraiment pas. On était dans le brouillard complet, comme la plupart des familles. On savait pas où pouvaient être les restes, s'ils étaient au fond du Rio de la Plata, dans une fosse commune ou. Et 34 ans plus tard, grâce à l'équipe argentine d'anthropologues médico-légales, on a pu identifier les restes de. Alors là, c'est bien sûr, c'est toute une histoire qu'il y avait derrière. D'abord, après 34 ans de recherche, on nous offre cette histoire merveilleuse de Melincué, un petit village de 2500 habitants dans le sud de Santa Fe, et surtout de leur école, une école publique où la prof Juliana Cagrandi et les élèves qui avaient 17, 18 ans, 16 ans à l'époque ont fait tout un travail. Ce travail est arrivé aux mains du secrétariat des droits de l'homme et aux mains des anthropologues qui ont fait des fouilles, qui ont fait des investigations et qui en 2010 sont allés déterrer, exhumer les restes de ces deux inconnus qui étaient enterrés dans leur petit cimetière. Bon, 11 mois de travail d'étudier les ossements, etc. et grâce à l'ADN ont permis que finalement il y ait une compatibilité avec le sang de la famille de Christine et avec le sang de nous, de la famille d'Omergue. L'équipe l'EAF, l'équipe argentine d'anthropologues, est vraiment magnifique, magnifique à tout point de vue.
Oui.
Point de vue scientifique, mais aussi point de vue humain, parce que ils sont très proches des familles, constamment. Et pas seulement en Argentine, hein, ils sont un peu partout dans le monde.
Est-ce que tu
ils
sais combien... Pardon, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu sais combien de personnes ont été retrouvées grâce à cette équipe, à peu près?
Écoute, oui. Alors, la politique de la dictature, c'était qu'on n'en retrouve aucun. Eux, ils en ont déjà identifié au moins 900.
Ouais. Oh, non, voilà.
900 sur 30 000. 900 sur 30 000, c'est très peu, mais 900 sur zéro, c'est énorme.
Exactement.
Et chacun d'eux apporte une histoire incroyable et pointe directement vers les coupables.
Oui, voilà. Ce témoignage est énorme. Alors, justement, on trouve toutes les ramifications par rapport à ton histoire, Eric, et par rapport à l'abnégation que vous avez eue tout de même, parce qu'il y a aussi ça, il y a tout le travail, tout le combat qui est mené par des gens. Là, il y a ta famille, toi. Il y a aussi tout ce que tu as fait en France, parce qu'il y a eu des actions en France aussi qui ont été faites pour retrouver, parce que tu as mené une association pour retrouver les disparus français, si mes souvenirs sont bons.
Oui, oui, enfin c'est surtout mon père, mais oui, en France il y a eu énormément de travail, vraiment la solidarité de la France, des Français a été énorme. N'oublions pas que pendant des années et des années et des années, tous les jeudis, absolument tous les jeudis, il y avait une manif devant l'ambassade d'Argentine, rue Simón Bolívar à Paris, non?
Oui.
Donc c'est vraiment, et l'action des catholiques contre la torture, etc. Pierre Bercy, c'est un de ceux qui a organisé ces manifestations du jeudi, non? Donc c'est ce soutien qui évidemment nous a encouragés, non? Parce que bon, sinon c'était un peu un combat solitaire. Mais ça n'a jamais été un combat solitaire, hein, ouais. Je peux te l'assurer.
Alors comme tu le dis, il y a ce travail absolument extraordinaire. Je ne sais même pas si le mot extraordinaire est suffisant de Juliana Cagrandi là-bas à Melinque et de sa petite équipe, des enfants qui ont fait ce travail. Sans eux, il est évident que Yves n'aurait pas été retrouvé et Christina non plus.
Exactement, non, oui, oui, ça c'est on est des privilégiés vraiment,
oui.
Parce que même si on parle de douleur,
oui.
De disparu, de mort, etc., il faut le dire, on est des privilégiés parce que non seulement on a pu identifier les restes de mon frère, mais en plus, comme nous l'avons dit toi et moi il y a quelques minutes, c'est une histoire merveilleuse avec cette école publique, ces gamins, ces profs, l'avenir est là.
Exactement, alors donc le troisième élément, c'est les anthropologues dont tu as parlé. Alors, où se trouve Yves maintenant, puisque vous avez récupéré ses restes, où se trouvent Yves et Christina, Eric?
Bon, Yves et Christina ont milité et sont aimés parce qu'ils étaient couple à Rosario. Donc, leurs restes, les cendres, ont été enterrées dans un parc public à Rosario. Et il y a un arbre de la région qui s'appelle le Timbo, qui a été planté. Donc, il a été planté en 2010. Et maintenant, c'est un arbre énorme qui nous donne de l'ombre. Les gens vont boire du maté au pied de l'arbre. Il y a une plaque. Donc, c'est, voilà, on leur a redonné vie.
Oui, d'ailleurs, nous y sommes allés ensemble.
On le voit dans le livre.
Oui, exactement.
Et dans le livre, d'ailleurs, bon, bien entendu, il y a une photo du Timbo qui a dû grandir depuis, j'imagine, depuis la dernière fois qu'on y est allé.
Vous pouvez visiter la page yvesdomergue.com.ar et il y a plein d'informations et il y a l'évolution de l'arbre.
Très bien. Alors, avant de conclure avec toi, Eric, parce que en plus le temps tourne, on en revient au titre du livre qui s'appelle Resiliencia. Je rappelle tout de même que sans ton apport, le livre ne serait pas ce qu'il est actuellement. Il faut quand même le dire, non? Et le titre Resiliencia me paraît tout à fait adéquat. Ça a été long à trouver le titre, hein, mais me paraît fortement adéquat avec tout ce que tu viens de raconter.
Tout à fait, oui. Enfin, tu es trop généreux. Enfin, j'ai essayé de collaborer tout au début, mais après, ton travail solitaire même était énorme. Et vraiment, je te félicite. C'est un livre.
Moi, je te remercie, mais.
Non, mais c'est un livre nécessaire, vraiment indispensable, qui a une vue tout à fait différente de tout ce qu'on avait publié avant. Non, c'est les Français en Argentine, les Argentins en France, et qui ont résisté justement, non, qui ont résisté. Le temps, la douleur, la distance, etc. Donc, oui, c'est un livre vraiment nécessaire.
Et qui rapproche nos deux cultures.
Tout à fait.
Bien, Eric, je te remercie. Il est 54, il nous reste 3 minutes. Donc, un grand merci pour ta participation et puis à un de ces jours, de toute façon.
Ah, oui, bien sûr. Merci à toi et à nouveau bravo. Hein. Allez, je vous salue.
Au revoir, Eric. Ciao,
au revoir. Merci. Au revoir.
Voilà, ah. C'était Eric, donc c'était bon. Alors Eric travaille à la Radio Nationale, hein, il est journaliste, hein,
oui.
Et donc il fait des émissions, et bon, il est très gentil avec moi là, mais il faut bien dire les choses. Eric m'a trouvé des gens, il a énormément de... il connaît beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses dans le livre qui existent grâce à son apport.
Ah,
il,
oui.
il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu toute une petite équipe, hein, il y a eu aussi Michel... Qui ne veut pas qu'on dise son nom, donc je ne le dis pas, mais qui a beaucoup aidé pour les vidéos, pour les témoignages, etc. Et donc, toi, pour les transcriptions et les traductions, et j'en oublie aussi beaucoup. Hein. Donc, c'est un travail d'équipe. Moi, je ne le vois pas comme un travail personnel. Bien sûr que c'était moi à la tête, donc il fallait que j'aille au bout de mon projet, mais sans vous, ce n'aurait pas été possible.
Au Chili, des ingénieurs mettent en place un projet de glacier artificiel dans la cordillère des Andes afin de pallier le manque d'eau qui menace le pays et où même la capitale Santiago, où vit près de la moitié de la population, risque d'être confrontée à de sérieux problèmes dans les années, voire les mois qui arrivent. Voici un rapport de RFI.
On part au sud et on s'arrête au Chili, où là, ce qui inquiète, c'est la sécheresse. Elle sévit depuis une décennie. Les glaciers fondent, des villages entiers au nord et au centre font face à des pénuries d'eau. Et même la capitale, Santiago, où vit près de la moitié de la population, risque d'être confrontée à de très sérieux problèmes dans les années, voire même les mois qui arrivent. C'est pourquoi est venue à des ingénieurs du pays l'idée un peu folle de construire dans la cordillère des Andes des glaciers artificiels pour stocker l'eau. C'est le projet NILUS. Et notre correspondante Neila de Rouanet a accompagné ses initiateurs lors d'une excursion nocturne à 2500 mètres d'altitude.
Il est presque 1h du matin, l'équipe du projet NILUS vient d'arriver, on va les rejoindre dans la voiture en bas, et direction la cordillère des Andes. Hola.
Sébastien.
Hola, mi nombre es Sébastien Goldschmidt.
Je m'appelle Sébastien Goldschmidt, je suis ingénieur et pendant de nombreuses années, j'ai travaillé dans les mines avec des horaires tournants. Il y a 5-6 ans, quand j'ai visité l'île de Pâques, ça a été comme un basculement pour moi. Là-bas, je me suis rendu compte que les défis environnementaux étaient énormes. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'apporter mon grain de sable pour aider la planète.
Sébastien a alors lancé le projet NILUS avec 3 autres collaborateurs.
Il y a environ 3 ans, nous sommes tombés sur la vidéo de remise de prix à l'ingénieur indien Sonam Wangchuk pour son projet dans l'Himalaya, au Ladakh précisément. On a été fascinés par sa technique de stockage de l'eau à l'état solide sans utiliser aucune énergie. On a trouvé cela merveilleux. Et notre première réaction, ça a été de nous demander comment répliquer ce modèle dans d'autres endroits, étant donné que la cordillère des Andes possède des conditions extraordinaires pour développer ce genre de projet.
Conditions extraordinaires pour pouvoir développer ce type de projet.
Après environ 2 heures de voiture, on arrive à la vallée des sables.
Alors là, il est à peu plus de 5 heures du matin, on marche dans la neige, une neige encore dure, solide, il fait assez froid. On est entouré des montagnes de la cordillère des Andes, encore partiellement enneigées. Le ciel est totalement dégagé et c'est la pleine lune. Et on en a encore pour à peu près 1h30 de marche avant d'arriver au cône de glace. Il est 7 heures du matin, on vient d'arriver sur le site. Le soleil se lève derrière les montagnes de la cordillère des Andes. et se dresse devant nous la grande structure de glace toute bleue d'environ 3 mètres de haut et 4 à 5 mètres de longueur.
On dirait un monstre ou un château de glace.
Joaquín Sayaveri est ingénieur.
C'est très similaire aux icebergs. Le cône de glace en face de nous, c'est la pointe de l'iceberg. Mais sous nos pieds, il y a toute une étendue de glace.
La technique est assez simple. Il faut capter l'eau des ruisseaux en hiver, la cheminer dans des tuyaux et ensuite la faire jaillir la nuit quand il fait très froid pour qu'elle gèle instantanément et forme un cône de glace.
En hiver, la masse de glace croît et ensuite au printemps et en été, elle diminue graduellement. Car le problème, c'est que la neige fond beaucoup plus vite que la glace. En canalisant l'eau dans cette structure solide, elle fond plus lentement et on régule ainsi la ressource pour que les communautés soient moins affectées par la pénurie d'eau. L'autre impact environnemental positif, c'est que ça approvisionne les différents cours d'eau du secteur. Dans l'Himalaya, les populations congèlent l'eau et l'utilisent ensuite pour arroser leurs plantations de façon pérenne. Nous souhaiterions répliquer ce modèle ici et l'implanter partout où il y a des problèmes de sécheresse et où les communautés souffrent du manque d'eau.
Cet hiver, le cône de glace a accumulé environ 500 000 litres d'eau. Pour l'année prochaine, l'équipe du projet Nilus souhaiterait en récupérer 1 million et construire une structure de 30 mètres de haut, comme il en existe déjà dans l'Himalaya. Naïla de Rouanet, dans la Vallée des Sables, RFI.
Et ainsi se termine ce programme en français de RAE et l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.